Alors, le Seigneur m'a mis à cœur un message ce matin qui certainement va avoir une suite, je ne vais pas tout apporter ce matin, sur le passage de Jean 14, 6, où Jésus dit à Thomas, « Je suis, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je vous invite à la prière au préalable pour que nous puissions... Eh bien, demandez au Seigneur qui nous ouvre nos cœurs pour recevoir cette parole. Amen. Seigneur, nous te prions afin que ta parole puisse pénétrer nos cœurs et puisse nous toucher, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes pour que, Seigneur, cette parole puisse faire son effet, puisse, Seigneur, nous enseigner, nous édifier et nous aider, Seigneur, à devenir meilleurs en toi, Seigneur, car nous voulons te servir. Nous voulons être équipés pour le royaume, Seigneur, pour répandre ta bonne nouvelle, Seigneur, la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, veuille nous aider. Nous te prions au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Amen. Voilà, Jean 14, nous allons le lire ensemble. C'est un passage où Jésus s'adresse à ses disciples et il dit dans le verset premier que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En ce moment, avec quelques membres de l'Église, on étudie l'évangile de Jean sur le royaume de Dieu, le règne de Dieu, comment Dieu règne sur cette terre. C'est pas évident de voir le règne de Dieu quand on voit toutes les guerres et tout ça, donc on est un peu confus. Comment Dieu peut régner? Il règne d'une certaine manière, comme à l'époque des disciples, Jésus exerçait son gouvernement, son règne. Bien sûr, c'était pas un règne politique, c'était un règne spirituel, puisqu'il guérissait les malades, etc., mais il répondait vraiment aux besoins des gens. Une sorte de règne. Et on voit avec les membres qui suivent cette réflexion sur l'ensemble des livres. Mais là, on est dans Jean. Bien, dans Jean, c'est un peu énigmatique. L'évangile de Jean est un peu énigmatique parce que il parle de choses un peu mystérieuses, qui sont d'ailleurs utilisées par des gens aujourd'hui qui cherchent des mystères. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'homme d'aujourd'hui, ou la femme d'aujourd'hui, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, il cherche à expliquer les mystères. Alors que ce soit les mystères de la nature, c'est ce qu'on appelle la science, et plus on cherche, plus on découvre, et moins on sait. Les vrais scientifiques, ils sont très humbles en disant on ne sait pas grand-chose par rapport à tout ce qui existe. Mais il y a aussi d'autres mystères. Il y en a qui cherchent le mystère des pyramides, le mystère de beaucoup, beaucoup de choses mystérieuses. Jean parle des mystères. Jean parle de l'intimité de notre relation avec Dieu. Et justement, là, il est un peu énigmatique avec Thomas, qui lui dit, « Mais Seigneur, tu nous dis, ok, nous devons te suivre, mais où est-ce qu'on va ? On ne sait pas, tu ne nous dis pas. » Et Jésus, au lieu de répondre, il dit, c'est moi le chemin. Voilà. Vous voyez, c'est pas évident de mettez-vous à la place de Thomas qui reçoit cette réponse. Alors dans Marc, si on prend un autre passage de Marc, chapitre 12, verset 14, Il est dit qu'ils vinrent dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies. » Déjà, c'est bien. « Et que tu ne te laisses influencer par personne. » Ah, ils ont remarqué que Jésus ne se laisse pas influencer. Hein, contrairement aux influenceurs aujourd'hui hein, qui essaient d'influencer tout le monde, Jésus n'est pas influencé par personne. Et c'est reconnu. « Car tu ne regardes pas l'apparence des gens. » Voyez-vous ? Quand on regarde à l'apparence, on peut être perturbé, on peut être influencé. « Mais tu enseignes le chemin de Dieu. » Tu enseignes le chemin de Dieu. Alors là, c'est pas... il ne parle pas de Jésus, il parle du chemin de Dieu. En toute vérité. Voyez-vous ? Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Voyez, on revient tout de suite sur des questions sonnantes et trébuchantes. Hein, voilà. Parce que c'est l'être humain, il veut des réponses tout de suite pratiques. Un autre passage où on parle du chemin, c'est dans Luc. Donc c'est dans les évangiles synoptiques. Luc chapitre 1er, verset 79. Là il est dit, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Là on parle du chemin de la paix. Vous voyez, ce chemin, le chemin vers Dieu, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, de différentes expressions, différents qualificatifs du chemin, on les retrouve dans tout l'évangile, dans tous les épîtres aussi. Et c'est un sujet que je veux aborder aujourd'hui, ce que c'est que ce chemin. Et surtout, le chemin, le fait que ce soit Jésus le chemin. Alors vous voyez là, c'est une petite image qui montre que la croix est centrale, hein, qui nous rapproche de ce fossé hein, qui s'est fait entre nous et Dieu et qui nous aide à aller vers le Père. C'est un chemin, Jésus dit, ce chemin nous amène au Père. Dans cet évangile que nous avons pris tout à l'heure dans Jean 13, jusqu'à 14, verset 14, si vous le prenez chez vous, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous sommes facilement troublés parce que, déjà, avec ces mystères hein, du chemin, voilà, c'est quoi exactement ce chemin ? Il dit non, ne vous troublez pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là aussi, où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voyez-vous, Jésus, en fait, il suppose que les disciples auxquels il s'adresse, ils savent le chemin alors qu'ils ne le savent pas. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin qui n'est pas habituel. Ce n'est pas un chemin comme nous, on cherche un chemin pour nous diriger, pour trouver la route vers Paris ou vers n'importe quelle ville. Là, le Seigneur dit, je vous prépare un endroit où vous allez demeurer avec moi. Ce n'est pas formidable ça ? Que le Seigneur nous prépare une place. Alors bien sûr, il parlait de sa résurrection, qu'il allait vers le Père. Rappelez-vous, il a dit à Marthe, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc il est allé vers son Père et à la Pentecôte, il a envoyé son esprit pour remplir les disciples. Et là, il est parti pour préparer une place. Et le Seigneur nous a préparé une place. Il t'a préparé une place à toi, à chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont une place à ses côtés. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que le Seigneur a préparé une place pour chacun de nous. Et il dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Tout simplement parce que le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. C'est Christ qui nous conduit sur le chemin qui mène à la vie et qui accomplit le dessein du Père, c'est-à-dire l'intention du Père, c'est-à-dire le projet du Père, l'idée que le Père, son Père, puisqu'il faut toujours raisonner entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, le Père a prévu un projet magnifique, un projet extraordinaire. Et il a ce dessein, cette destinée, si vous voulez, cette pensée, ce projet pour l'humanité, pour nous racheter. À partir du moment où l'homme et la femme ont péché dans le jardin, ils n'ont plus accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et quand il a dit tu ne toucheras pas, ça veut dire que quand ils ont touché, eh ben, ils ne pouvaient plus rentrer à la présence de Dieu parce qu'ils étaient remplis de péché. Ils étaient à l'arbre du mauvais, du diable, celui qui est le mensonge. Voilà, ils ont touché au mensonge. Or, dans la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir de mensonge. Alors? Il ne peut pas y avoir de mensonge. Il n'y a que la vérité. On le verra tout à l'heure. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faites attention aux mensonges. L'ennemi, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, il n'arrête pas de diffuser des mensonges sur mensonges sur mensonges. Et ce sont les mensonges qui nous égarent. Alors que la vérité nous aide à être droit devant le Seigneur. Et Jésus est la vérité. C'est Christ qui nous conduit sur le chemin qui mène à la vie et qui accomplit le dessein ou la volonté du Père, la volonté de Dieu, de son Père. Il faut toujours rester branché sur un Dieu trinitaire, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est ce qui nous permet d'être dans le christianisme. Dès qu'on sort de la conception trinitaire, on n'est plus dans le christianisme. On est dans d'autres religions, mais pas dans le christianisme. Pourquoi? Parce que le Dieu trinitaire, il montre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'ailleurs dans lequel on doit baptiser les chrétiens, baptisez-les, Jésus a dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien c'est notre modèle de communauté. C'est une communauté. Trois personnes, c'est communauté. Deux, non, il peut y avoir fusion. Mais trois, il y a une relation qui s'établit. Et cette relation qu'on voit sans arrêt dans le Nouveau Testament entre le Père et le Fils, regardez Jean 17. Jean 17, Jésus, il s'adresse au Père, il prie le Père, il est en communion avec le Père, il prie pour nous, pour que nous ayons cette relation avec le Père. Eh bien, c'est ça qui nous aide à bien comprendre comment nous devons nous comporter dans la communauté dans laquelle nous sommes, où nous avons besoin d'avoir des relations. Et je suis très content ce matin parce que vous êtes beaucoup plus regroupés, on sent plus les liens qui nous unissent ensemble, parce que ce sont des ligaments de l'amour qui nous unissent les uns aux autres. Le chapitre 13, du chapitre 13 à 16 de l'évangile de Jean, Jean nous rapporte les entretiens du Seigneur Jésus avec ses disciples juste avant d'aller à la croix, juste avant l'heure de la croix. Et une dizaine de fois dans ces chapitres, il leur dit, je m'en vais. Il leur dit, je m'en vais. Alors, c'était un choc pour les disciples. Mettez-vous à leur place. Hein. Ils voient une personne humaine, Jésus, qui était fils de charpentier, etc. Voilà, donc ils ne voyaient pas un esprit. Ils voyaient une personne qui s'entretenait avec elle, etc., et qui dit, je m'en vais. Hein. Toutes les ruptures comme ça, de départ, hein, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous rend triste. Mais Jésus leur dit, non, je m'en vais. Je m'en vais. Mais il ne leur dit pas le lieu. Il ne leur dit pas, je m'en vais, voilà, tel endroit, telle ville, etc. Donc c'est perturbant. Et il dit, mais nul ne me demande, où vas-tu? C'est chapitre 16, verset 5. Et pourtant le Seigneur leur dit clairement, je m'en vais au Père. Vous voyez, il leur dit, je m'en vais au Père, et eux, ils demandent, où est-ce que tu vas? Ils n'ont pas compris que le Père, c'est le Père qui est au ciel. Hein. Ce n'est pas son Père qui est à Bethléem, ou qu'ils ont peut-être voilà, bougé à Nazareth, son Père naturel, parce que même s'il n'a pas engendré, il avait un Père naturel, et il a vécu dans cette famille avec Marie. Ben non, il dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est pour ça d'ailleurs on dit que Jésus est le premier apôtre, parce que envoyé en grec ça veut dire apôtre. Il est apostolé, il est apôtre, il est envoyé. Il est envoyé du ciel sur la terre, mais il est envoyé. Jésus a été envoyé par le Père. Il n'a pas décidé tout seul, il a été envoyé, missionné, hein, comme nous aussi, nous sommes envoyés. Donc il dit, je m'en vais au Père, je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Chapitre 14, verset 12, 28. Le chemin qui le menait, qui menait Jésus, passait par des terribles douleurs de la croix, par la mort et la résurrection de Jésus, qui fixe ses yeux sur son Père, mais aussi sur les disciples, et sur l'aboutissement de ce chemin. Jésus savait que le Père avait un plan, mais lui, il devait y passer. Vous savez, c'est comme nous, on sait parfois, je ne sais pas si vous faites de la montagne ou des épreuves, ben on sait qu'il y a les épreuves qui vont nous attendre, mais bon, voilà, on espère. J'ai une fois fait un sommet de plus de 4000 quand j'étais plus jeune. C'est extraordinaire de vivre ce moment-là. Hein. Mais entre-temps, on a failli perdre quelqu'un dans une crevasse. Il y a eu des blizzards, il y a eu des épreuves. Mais je ne vous dis pas, ceux qui montent à l'Himalaya, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Donc on sait qu'on va rencontrer des épreuves, mais ce qui nous pousse, c'est le but. C'est d'arriver là-haut et de voir un spectacle extraordinaire. Ben Jésus, il vivait ce but. Il savait que son Père, qui était bon, il avait un plan pour l'humanité qu'il a confié à son Fils, mais qui passait par les douleurs, la souffrance, par la mort, par le sacrifice. Et il a accepté. Il a accepté, il a obéi. Donc Jésus connaissait la portée de ce qui allait l'attendre. Mais il dit, je serai dans une nouvelle position. Après ce que j'aurai vécu, je serai dans une nouvelle position et je vous préparerai une place. Voyez-vous, Jésus n'est pas resté dans un mystère où il n'a pas expliqué les choses. Sauf qu'il ne comprenait pas à ce moment-là. Parce que les disciples ne s'attendaient pas à ce que ce Messie soit un Messie spirituel, parce qu'ils le voyaient. Ils espéraient que ce Messie les délivre des Romains. Vous savez, comme en France, quand on avait les Allemands, on n'attendait qu'une seule chose, c'est d'être délivré de l'occupation des nazis. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gens dans la comment ça s'appelle, résistance, voilà. Qui ont donné leur vie, hein, pour certains, il y a beaucoup qui sont morts dans ce qu'ils ont fait pour freiner cette occupation et libérer, si possible, de ce joug. Et les disciples, c'était pareil. D'ailleurs, il y avait un nom, ça s'appelait les Zélotes. Les Juifs Zélotes, c'était des Juifs qui étaient engagés dans un combat contre les Romains, qui voulaient vraiment chasser les Romains de la Palestine. Mais Jésus n'est jamais rentré dans ces questions politiques, puisque lui, il parlait du ciel. C'est pour ça que Jean, il parle beaucoup du ciel et de la terre, hein, contrairement aux autres évangiles qui parlent du futur et du passé dans le temps. Le message de la Bible est diamétralement opposé aux valeurs de notre culture. C'est pour ça que les gens que vous rencontrez, qu'on rencontre, ne peuvent pas comprendre le message de l'Évangile. Exactement comme les disciples n'ont pas compris. Quand Jésus a dit, je m'en vais au Père, où est-ce que tu vas, on ne sait pas, qu'est-ce que c'est que ça, c'est vrai, parce qu'ils étaient dans une autre logique. Là où ils ont compris, c'est à la Pentecôte, quand ils ont reçu l'Esprit. Vous voyez, ils font une révélation. C'est un peu comme avec Constant, quand on parle, on est en train de prier pour que vous puissiez recevoir la révélation de la vision. Comme Constant l'a reçu, comme moi je l'ai reçu, comme Charles l'a reçu, comme beaucoup, je pense, d'autres l'ont reçu. Mais les trios, c'est pour ça, c'est pour vous aider à recevoir la révélation de ce que Dieu veut pour cette Église. Chaque Église, Dieu a un plan. Pour chaque Église, vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard, il ne joue pas la roulette. Hein. Le Seigneur, il utilise un corps, son corps local, pour une destinée, pour un plan. Et nous avons été choisis, ce corps spécifique, Aubergenville, a été choisi pour un plan très très important. Et qui remonte il y a 500 ans à la réforme protestante, où il y avait déjà une ville refuge, et cette ville doit être une ville refuge pour les chrétiens. Donc voilà, le Seigneur nous parle de ce chemin, mais le monde ne veut pas du chemin qui est Jésus. Le monde veut différentes vérités, différentes façons de vivre. Et le monde dit personne n'a le droit d'imposer son chemin. Personne n'a le droit d'imposer sa vérité ou son mode de vie aux autres. C'est ce que le monde nous dit. Et le message de la Bible est très très choquant parce que Jésus prétend à l'exclusivité. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez, on peut connaître, on peut rechercher Dieu. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est le Père. C'est pour ça que la Trinité est importante. Parce que Dieu, tout le monde parle de Dieu. Les gens du monde, surtout ceux qui sont les adorateurs de la nature, hein, les panthéistes, le paganisme, tout ça, ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Mais le Père, c'est autre chose. Parce que le Père est une personne dans la divinité qu'on respecte. Qu'on respecte. C'est pas un truc vague. C'est pas un truc voilà, qu'on adore comme ça, qu'on met des bougies, qu'on met des choses, etc. Non, le Père, et vous savez vous-même, je pense plutôt aux gens de l'Afrique, hein, vous avez un respect pour le Père. C'est vrai? Hein? Chez nous, en Occident, on l'a perdu un peu, hein, cet aspect du respect du Père et le respect des anciens. Hein? Et vous avez encore une culture, on l'a eu, hein. Il y a 50 ans, je peux vous dire, moi j'étais tout petit. On respectait les choses qu'on ne respecte plus maintenant. Pourquoi? Parce que mai 68 est passé. Mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dedans, mai 68, j'étais à Paris. Hein, les pavés, ils volaient dans tous les sens. Tout ça parce que ils ont écrit sur les métros, il est interdit d'interdire. Même pour interdire, c'est interdit. C'est allé jusque-là. Et depuis, tout l'Occident a basculé dans « fais ce que tu veux ». Fais ce que tu veux, n'écoute plus les anciens. Voilà. Mais fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, ben, on voit le résultat. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et Jésus qui dit, je suis le chemin, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Non, chacun a son chemin, chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut, etc. Voilà. Et donc, cette affirmation de Jésus est une affirmation qui est scandaleuse pour son époque. Mais encore plus aujourd'hui. Elle est exclusive. En dehors de moi, eh bien, il n'y a pas de chemin pour aller vers le Père. Vers Dieu, oui, mais pas vers le Père. Parce que Dieu, c'est une affirmation générale. Mais le Père, c'est quelqu'un qu'on respecte et vers qui on va pour recevoir tous les bienfaits, tous les bénéfices qu'il a pour nous. En réalité, cette affirmation de Jésus, je suis le chemin, est à la fois inclusive et exclusive. Je m'explique. Elle est inclusive dans le sens où elle est pour tous. Jésus n'a pas dit, voilà, j'ai quelques disciples qui peuvent venir vers le Père, qui prennent ce chemin-là, et d'autres. Ça, c'est dans les sociétés secrètes, vous avez les initiés, les gens qui sont pris dans un cadre d'initiés, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur. Donc, c'est réservé à ceux qu'on enseigne et qui peuvent avoir ce chemin qui mène à ce qu'ils proposent. Hein. Souvent, en général, c'est pour vous transformer, faire de vous quelqu'un d'extraordinaire, de développer vos capacités, etc. Ce qu'on appelle le développement personnel, etc. Bon. Mais Jésus, il dit non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, quand Jésus était sur la terre, il s'est adressé à tout le monde. Le plus petit, le plus grand, le plus pauvre, le plus riche, il y a aucune exclusivité. Jésus s'adresse à tous. Donc c'est inclusif. Mais en même temps, c'est exclusif. puisqu'il dit qu'il n'y a qu'un chemin. Voyez-vous ? En même temps, c'est ouvert à tous, et en même temps, c'est exclusif. On est dans un paradoxe. Mais la Bible est remplie de paradoxes. Parce que la Bible ne nous adresse pas à notre raison, elle s'adresse à notre cœur. Et demande à ce qu'on croit par la foi que ce qui est dit est vrai. Hello ? Alors que le monde essaye de vous expliquer les choses par la raison. Alors vous êtes très content parce que vous comprenez les choses parce qu'on vous l'explique. En tout cas, quand on vous explique les mots un peu compliqués, suivant les grammes dans lesquels vous êtes, vous comprenez les choses, etc. Mais la Bible, non, elle dit tout simplement, venez à Jésus. Venez à Jésus et Jésus va vous emmener vers le Père. Voyez-vous ? Donc c'est extrêmement simple. Mais c'est exclusif et le monde ne peut pas le recevoir, surtout pas aujourd'hui. Et plus ça va, moins il pourra le recevoir. Pour bien des gens, cette affirmation est trop inclusive parce qu'ils ne veulent pas entrer dans ce chemin. Ils refusent cette option. Et d'ailleurs, il y en a qui disent « Oui, mais c'est trop facile ce que vous dites. Il suffit d'accepter Jésus, voilà. » Ben non, c'est facile. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de discussion avec des gens auxquels vous parlez de l'Évangile. Ben non, c'est trop simple. Si c'était comme ça, ben oui, ben c'est comme ça. Vous voyez, moi, mais c'est parce que les gens qui veulent y aller par l'intelligence, eh bien, ils sont exclus. Et Jésus a bien dit, pour passer, il faut se baisser. Hein. Comme dans la porte, comme le chameau qui se baisse pour entrer dans la porte étroite. Il faut être humble, il faut accepter que la voie que Jésus nous donne, c'est la bonne, c'est que c'est lui le chemin. Alors forcément, les chrétiens, avec ça, sont vus de manière étroite. Hein. On leur dit, mais oui, vous avez un esprit étroit, vous ne pouvez même pas accepter ceux qui ont un autre pensée que vous, etc. Vous voyez, c'est ça. Mais rassurez-vous, les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens avec Jésus, ils ont été persécutés à cause de ça. Pourquoi ils se sont retrouvés dans les cirques dévorés par les lions, etc. Parce que ils troublaient l'ordre public, parce qu'ils ne voulaient pas accepter l'adoration des dieux païens. Quand ils adoraient les dieux païens pour que la pluie tombe, la moisson et tout ça, quand il y avait des sécheresses, ils disaient c'est les chrétiens. Parce que c'est à cause d'eux que ça ne marche pas. Vous voyez, ils étaient toujours désignés parce qu'ils étaient exclusifs. Ils ne voulaient pas s'associer aux adorations païennes. Et pour les païens, ils ont dit, mais c'est à cause des chrétiens. S'ils le faisaient, il n'y aurait pas ça. Voyez-vous ? On trouve toujours une excuse. Hein, et vous ne pouvez pas discuter avec ça. Puisque, voilà, vous ne pouvez pas le vérifier. Hein. Et aujourd'hui aussi, eh bien, nous sommes persécutés et serons persécutés pour ceux qui veulent vraiment apporter ce message. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pour tous ceux qui ont le privilège d'être éclairés par le Saint-Esprit, j'espère que vous l'êtes, sinon on va prier pour que vous soyez éclairés. Il faut un éclairage du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Jésus, avant qu'il aille sur la croix, il a réuni ses disciples et il a dit « Qui êtes-vous que je suis ?» Hein? Et les gens, les disciples ont rapporté ce qu'ils entendaient. On dit « Ah, il y en a un qui dit que c'était Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est mort, mais bon, il est ressuscité, c'est Jésus. » Il y en a un autre qui disait « C'est Élie, parce qu'Élie est mort, mais voilà, il doit revenir, parce que c'est dans les textes, ils ont dit « Élie doit revenir, donc Jésus c'est Élie, etc. etc. » Et d'un seul coup, Pierre, il dit « Mais non !» Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, c'est pas toi qui as trouvé ça, c'est mon Père qui t'a révélé cette vérité. Voyez-vous, il faut une révélation. Il faut que ce soit le Saint-Esprit. Et on peut être reconnaissant d'avoir cette révélation. Moi, je suis très, très reconnaissant, Seigneur, de ce que le Seigneur a révélé, par exemple, le phare à Constant, qui venait dans l'église et il ne connaissait pas du tout l'ancienneté de cette église et tout ça. Mais tous, nous devons avoir la révélation du dessein, de l'intention du Père pour cette église. Vous voyez, c'est pareil. À chaque fois, il faut avoir des révélations. Parce que les révélations, ça vient du cœur et ça vient de l'esprit. Tout le reste, ça vient de la raison, ça vient de la pensée, voilà, c'est limité, hein, c'est pas forcément mauvais, mais ça n'a pas la puissance d'une révélation. Parce que la révélation, les apôtres par exemple, qui avaient la révélation de ce que Jésus était le chemin, l'esprit de la vérité, ben, on pouvait les torturer, ils bougeaient pas, ils bougeaient pas. Même Pierre s'est fait crucifié à l'envers, parce qu'il ne voulait pas être comme son Seigneur, et bien jusqu'au bout, ils ont résisté, parce qu'ils savaient que qu'ils avaient une rétribution plus importante qui les attendait, parce qu'il y avait une demeure qui était réservée à eux. Mais ils ne voulaient pas renier leur maître, vous voyez, parce qu'ils avaient reçu une révélation. Amen. Jésus-Christ, nous avons. Jésus-Christ nous a laissé, eh bien, cet enseignement que c'est lui le chemin. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Il faut que nous acceptions cette vérité. Jésus a réuni tous ses disciples dans l'intimité et dans la paix. Avec Jésus, on est toujours dans la paix. Quand il y a quelque chose qui n'est pas dans la paix, sachez que ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le roi de paix, c'est celui qui amène la paix. Et si c'est dans notre famille, c'est dans notre église, n'importe où, s'il n'y a pas la paix, c'est que Jésus n'est pas là. Il n'est pas là suffisamment pour nous amener dans la paix. Parce que si nous sommes dans la paix, si mon frère est dans la paix, si ma femme est dans la paix, etc., on est dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Pas ça. Mais la paix, c'est quelque chose qui dépasse le cadre de nos relations et qui nous amène à l'amour. Et Jésus a réuni ses disciples dans l'intimité avant la tempête, cette tempête spirituelle qui l'attendait, cette mort à la croix, pour les préparer à ce qui va suivre. Jésus les a réunis dans cette pièce où ils ont célébré la Pâque. Et Jésus et Pierre lui demandent, Seigneur, où vas-tu? C'est dans Jean chapitre 13, verset 36. Et il ajoute, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Et vous, Pierre est toujours celui qui veut suivre Jésus, hein, que ce soit marcher sur l'eau, que ce soit partout. Et Pierre, voilà, il est radical, lui, il a dit, non, moi je suis mon maître. Il a dit, mais pourquoi je ne peux pas te suivre là, hein? Tu vas partir, tu nous dis, tu t'en vas, tout ça, tu vas vers le Père. Moi, je veux te suivre. Et Pierre est estomaqué parce qu'il a tout abandonné pour suivre Jésus. Il a abandonné sa famille, tout, etc. Il a suivi Jésus. Et maintenant, il te fait dire qu'il ne peut plus suivre son maître. Pierre ne comprend pas. Parce que Jésus dit, non, tu ne peux pas me suivre là où je vais. Mettez-vous à la place de Pierre. Oui, Jésus, il est perturbant, hein. Il est vraiment perturbant parce qu'il ne parle pas au même niveau. Il parle sur le plan spirituel. Et nous, on écoute toujours sur le plan charnel, sur le plan de ce qu'on peut comprendre, analyser, etc., avec ce qu'on connaît. Mais Jésus doit passer par un chemin qui lui est réservé uniquement à lui. C'est le chemin qui mène à la croix. Et ce chemin est exclusif. Il n'y en a qu'un qui pouvait aller à la croix et être justifié. Vous savez, je ne sais plus où c'est en Espagne. Tous les ans, à Pâques, il y en a qui se font crucifier sur une croix, même qui reçoivent des clous et tout ça, hein, voilà, qui veulent revivre la passion du Christ. Voilà. Voilà, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est des êtres humains, charnels, pécheurs et tout ça. Mais Jésus, lui, il est allé sur la croix alors qu'il était innocent. Il était parfait. Il n'avait pas de péché. Il a porté nos péchés à la croix. Voyez-vous, c'est une œuvre unique d'un être humain, d'un homme, qui a accepté cette mission. Et bien sûr, Pierre ne pouvait pas le suivre. Pierre, il était pécheur. Pierre, voilà, il était super, Pierre. Je veux dire, il ne pouvait pas se comparer à Jésus, il ne pouvait pas donner sa vie pour toute l'humanité. Donc voilà, il ne comprenait pas ce langage exclusif de Jésus où il voulait leur dire, ben, moi seul, je peux faire cela. Et même, vous n'allez même pas pouvoir prier une heure avec moi. Il les a emmenés dans le jardin de Gethsémani et ils n'ont pas tenu. Vous savez, ceux qui font de l'intercession, du combat spirituel, quand vous êtes dans un combat spirituel, eh bien souvent on s'endort. on s'endort parce que l'ennemi met une pression, il y a une pression spirituelle, une pression. Et là, il faut lutter, il faut lutter. Et les apôtres n'ont pas lutté parce que Jésus était aux prises avec les puissances démoniaques qui étaient sur lui, parce que les puissances étaient là sur lui. Mais il a résisté, il est allé jusqu'au bout. Mais lui seul pouvait aller à la croix. Et Jésus explique à ses disciples qu'il doit bientôt les quitter et retourner vers le Père. C'est Jean 14, versets 1 à 3 qu'on a lu. Jésus les prépare à de grandes choses, à sa mort et à sa résurrection et son ascension. Mais eux, ils sont dépassés. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que, voilà, ça sort de leur compréhension. Ils n'ont jamais vécu ça. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus ne répond pas directement. Il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et l'important dans ce que dit Jésus, c'est pas tellement l'endroit où il va, où il est le Père. Ben oui, ben on ne peut pas y accéder. Il est au ciel. Et le ciel, ce n'est même pas les nuages. Hein, c'est autre chose. C'est une dimension spirituelle. Ce n'est pas une localisation. Jésus ne va pas dire, ah ben lui, je vais au ciel, je vais là, etc. Non, il va au Père. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas expliquer spirituellement aux apôtres. Hein. Mais l'important, ce n'est pas l'endroit. C'est la personne de Jésus. La personne de Jésus. C'est pour ça, mes amis, ce qui est important dans la compréhension du message de ce matin, c'est que nous sommes invités à connaître Jésus. Parce que c'est lui le chemin. Parce que si nous connaissons Jésus, si nous rentrons en contact avec lui, si nous restons en contact avec lui, si nous demeurons en lui, lui va demeurer en nous et nous allons forcément aller vers le Père. Voyez-vous? C'est là la profondeur de l'enseignement de Jésus. C'est que ce qui est important, ce n'est pas le moyen d'y aller, l'endroit où on va aller, mais c'est le Père. De toute façon, le Père, rien ne peut contenir l'immensité de l'espace. Pas un lieu géographique peut contenir le Père. Le Père, il est au-dessus de tout. Ceux qui voulaient expliquer cela, eh bien, ils utilisaient le mot le tout autre. Il est le tout autre. C'est celui qu'on ne peut pas décrire. Donc on ne peut pas dire comment est-ce qu'on va y aller, quel chemin on va prendre. Donc, ce que signifie le chemin, ça suppose un point de départ, un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous. Nous qui sommes dans nos péchés et dans notre misère. Et le point d'arrivée, c'est notre présence avec le Père. Dans ce demeure, dans ce lieu que Jésus nous a préparé. Nous serons éternellement dans la présence du Père. Et entre les deux, comment se passe ce trajet? Eh bien, ce trajet, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que ce qui est important dans notre vie chrétienne, c'est de nous convertir à Jésus, c'est d'accepter Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à demeurer en lui, à marcher en lui, parce que c'est lui le chemin, voyez-vous? Et beaucoup de chrétiens l'oublient ça. Ils pensent qu'ils reçoivent un ticket comme ça, comme vous allez, je ne sais pas, à l'opéra, on vous donne un ticket, vous allez à l'opéra, et puis voilà, si c'est dans un mois, vous faites tout ce que vous voulez, et dans un mois, vous présentez avec votre ticket, vous rentrez dans l'opéra. C'est pas comme ça. Parce que le Seigneur, il veut nous former. Il veut nous parler. Il veut une relation avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut emprunter ce chemin qui est Jésus. Et c'est le chemin de la sanctification. Vous vous rappelez quand, dans Genèse, l'homme et la femme ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Et il a mis des chérubins avec des épées qui empêchent le retour. Qui empêchent le retour. Il m'a imaginé que ces chérubins, eh bien, soit avec des épées, on ne peut pas revenir dans la présence du Père, sauf si le chemin est ouvert. Et qu'est-ce qui ouvre le chemin? Alors? Qu'est-ce qui ouvre le chemin? Parce que, rappelez-vous, le voile qui s'est déchiré dans le temple, il y avait un voile. Personne ne pouvait aller dans le lieu très saint. C'était le souverain sacrificateur qui pénétrait une fois par an. Et si jamais il ne s'était pas bien purifié, il mourait immédiatement. Et il le tirait par une corde qui était attachée au pied, voilà, parce que sinon, ils tombaient les uns sur les autres, ils mouraient tous. Donc il le tirait, voilà, et ça arrivait souvent qu'il devait tirer le souverain sacrificateur par les pieds, ce qui était mort, parce qu'il n'avait pas respecté les règles qui lui étaient imposées pour entrer dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort à la croix, ce voile s'est déchiré. Et nous avons un accès libre. C'est ce que, dans le protestantisme, on appelle le sacerdoce universel. On n'a plus besoin de prêtre. Souverain prêtre, c'est Jésus. Nous, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas notre copain, les amis. Dieu est un Dieu saint. Et très souvent, on se rappelle plus que Dieu, c'est pas notre copain. On lui tape pas sur le dos en disant, tiens, je veux ça, je veux telle voiture, tu me la donnes, tout ça, sinon je trépigne des pieds, etc. Vous voyez, c'est très souvent, on se rend pas compte. Bien sûr, là, j'exagère dans mon exemple. Mais Dieu est un Dieu saint. Il reste saint. C'est pas parce que nous, on a accès dans sa présence que le Dieu saint, il reste saint. Et ce chemin a été ouvert. On peut retourner dans la présence de Dieu. On peut retrouver la position qu'on avait. Alors, notre position naturelle, c'est dans Adam, dans le péché, mais notre position spirituelle est dans le Christ, dans Jésus. Et si on est en Jésus, on peut entrer dans la présence de Dieu. Et vous voyez, vous pouvez visualiser, eh bien, entre les deux chérubins, la croix. Et c'est la croix qui nous permet d'entrer. Si on passe par la croix, eh bien, on peut retrouver la présence. On peut retrouver la pensée initiale de Dieu pour nous, pour l'humanité, pour ceux qui sont sauvés, nous sommes là. Mais pour cela, il faut respecter Dieu. Il faut respecter sa parole, il faut respecter ses enseignements, il faut être à son écoute, il faut vivre comme Jésus nous l'a indiqué. Et ça, ça s'appelle la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quels sont ceux qui connaissent le... Enfin, il y a un film maintenant, mais un livre, s'appelle Le Voyage du Pèlerin, de Bunyan. Quels sont ceux qui ont vu ce film ou qui ont lu ce livre ? En anglais, c'est Pilgrim's Progress de Bunyan. Non ? Personne ? Quand même. Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont vu. Ok. Ah, les anglophones. Hein. Ah, les anglophones sont toujours gâtés hein, par toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas. Mais je vous invite à le regarder. C'est un film. Hein, donc, vous savez, je suis sûr que vous voyez beaucoup de films. Tapez Voyage du Pèlerin de Bunyan. B-U-Y-A-N, Bunyan. C'est un écrivain que Michel a eu à la Sorbonne. Donc il est enseigné dans la Sorbonne, dans l'université. Mais les professeurs, ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est pas possible qu'un homme comme ça, qui était ferblantier, il tapait sur des casseroles, vous voyez, enfin, ferblantier, il faisait travail du fer, hein, métallique, comme mon grand-père et mon père, qui étaient dans ce métier-là. Il n'avait pas d'instruction, il n'y avait rien. Il a écrit Le Voyage du Pèlerin. C'est justement une allégorie. Donc, une allégorie, c'est une histoire qui, tous les détails, représente la sanctification du chrétien. Comment il rencontre tel moment, etc. C'est très, très bien écrit. Hein. Et donc, il y a même une vidéo, si vous aimez pas lire. C'est la sanctification. Ce pèlerin, dont il décrit, il lui montre comment il est séduit. Dans telle position, dans telle aventure, dans telle chose, et comment il a contourné, comment il a gagné avec son ami qui était avec lui, etc. Et ça, c'est notre vie. Nous sommes tous challengés, comme je dirais, défiés par l'ennemi à quitter ce chemin. Or, c'est un chemin qui conduit au Père. Mais il faut rester sur ce chemin et ne pas le quitter. Amen. Voilà. Donc l'application, elle est individuelle. Jésus, le chemin, la prochaine fois, je vais aborder la vérité et la vie. Jésus est le chemin. C'est-à-dire que nous devons individuellement accepter ce chemin et marcher dessus pour que nous puissions aller au Père. Et que nous allions jusqu'au bout de notre vie. Quand nous aurons le dernier souffle, nous pouvons entrer dans la présence du Père. Et le Père va dire, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans ma présence. Voilà, donc, et c'est notre plus grand bien. C'est le bien qui nous attend. Hein. Tous les biens de ce monde, on va les perdre. Mais ce bien-là, il est réservé à chacun d'entre nous. Ça, c'est la première application individuelle. Et l'application collective de notre communauté ici, parce que nous sommes l'Église du Seigneur, en même temps que toutes les églises locales sont toutes les églises du Seigneur, parce qu'il n'y a qu'une seule église, donc l'émanation de l'Église universelle, cette Église-là a aussi un chemin, a aussi une destinée, a aussi, parce que Dieu nous donne un sens en tant que l'Église locale, pas uniquement pour nous réunir comme ça, mais pour être un phare dans cette région. Et être un phare dans cette région, de faire une ville-refuge, comme je vous l'ai dit il y a 500 ans, là-haut à Volegno, il y a encore les restes, la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Eh bien, le Seigneur a fait une ville-refuge pour qu'il y ait des gens qui viennent de partout pour qu'ils puissent connaître Jésus, connaître ce chemin. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ici. Donc, nous sommes ceux qui sont appelés à vivre cela. Donc, réjouissons-nous. Donc, ça, c'est le chemin pour notre Église en tant que communauté. Et je me réjouis beaucoup de le vivre avec vous. Et c'est le contenu aussi des trios que je vous invite tous à lire, parce que je sais que tout le monde n'a pas encore vu les vidéos que Michel et moi on a fait là-dessus, pour bien vous expliquer la révélation de ce phare que le Seigneur veut établir ici. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole, Seigneur, vient de ta bouche. Et ta bouche, c'est le Logos. C'est la puissance de ta parole. Tu as créé toutes choses. Et Seigneur, tu peux créer en nous le vouloir et le faire selon ton dessein bienveillant. Eh bien, Seigneur, fais-le en chacun de nous pour que nous puissions marcher sur ce chemin qui mène au Père et que nous puissions, Seigneur, aller jusqu'au bout pour que nous puissions avoir, Seigneur, la rétribution quelque part de ce qui nous attend, Seigneur, dans ta présence pour l'éternité. Nous te prions, Père, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On va aussi prendre le repas du Seigneur ensemble, parce que c'est ce que le Seigneur a institué avant de partir. Justement, dans ce temps que nous avons vécu, que nous avons échangé tout à l'heure, ce temps d'intimité, avant que le Seigneur aille à la croix, eh bien, il veut aujourd'hui, eh bien, aussi le partager pour nous rappeler que c'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés.